d'aucune manière vient apporter de l'eau au moulin traditionnaliste ou intégriste. Mais alors du coup, on a bien fait, nous autres, depuis si longtemps, de soupçonner un certain lien, peut-être même un lien direct, un lien de cause à effet entre le concile et l'effondrement. Bon, vous connaissez tous le contexte. Et ces discussions qui traversent l'Église catholique sur, depuis 50 ou 60 ans, sur le rôle du concile dans l'effondrement des courbes que chacun peut constater à l'œil nu dans la rue. Donc ça, il n'y a pas photo, on se dispute pas là-dessus. En revanche, le problème des causalités est énorme. Chacun se doute bien qu'il est complexe, qu'il y a une mutation socio-culturelle, mais qu'il y a aussi des causalités religieuses. Bon, bref. Donc il y a une discussion qui est pendante dans l'Église catholique, avec en gros, si je devais décrire le paysage, un peu trois écoles, ceux qui disent, bon, ben, il se trouve que ça a à peu près coïncidé chronologiquement avec le Concile, cet effondrement des courbes, enfin le démarrage de l'effondrement, et donc ça, c'est probablement la faute au Concile. Bon, c'est l'explication traditionnaliste ou intégriste. Ceux qui disent ça n'a rien à voir, mais en tout état de cause, il faut bien reconnaître que le Concile, comme entreprise de modernisation du catholicisme, censé faire rentrer ce qui sortait, n'a pas tout à fait produit les effets, les bons effets escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas sa faute, c'est parce qu'on n'a pas assez modernisé, on aurait dû aller plus loin, et en allant plus loin, on aurait enfin atteint le point de rentabilité de l'effort. Voilà, on s'est arrêté avant, on a déclenché des processus qui nous ont fait peur, et puis on a freiné. Et c'est bien dommage, parce qu'au fond, c'était plus loin que le grand bond en avant allait produire les effets escomptés. Bon. Et puis ça, si vous voulez, c'est, je dirais, l'école dite progressiste. Et puis vous avez une école intermédiaire qui est peut-être plutôt, mais il y a la thèse un peu dominante, qui consiste à dire, bon, il y a surtout eu une sorte de coïncidence chronologique entre deux mutations. Une mutation religieuse, induite par le Concile, et qui était née elle-même du pressentiment qu'une mutation socio-culturelle allait finir par embarquer le catholicisme existant et qu'il fallait qu'il se réforme avant que le temps de la rupture soit parmi nous. Donc on enclenche un processus de modernisation du catholicisme qui l'enclenche des théologiens européens qui ont une soixantaine d'années et qui l'enclenche un peu avec l'idéal de leur jeunesse des années 30. Et ils font faire un bond en avant, pour le coup, spectaculaire à l'Église catholique, et simultanément, sans que personne ne l'ait vu venir, se produit une mutation socio-culturelle, ou peut-être plus précisément, les mutations sociales et économiques qui s'étaient accélérées depuis la Seconde Guerre mondiale produisent leurs effets culturels au milieu des années 60, en même temps que le Concile. De sorte que on se retrouve avec deux mutations simultanées, une socioculturelle, une religieuse, qui entrent en synergie et rendent absolument incontrôlable la maison. De sorte que le Concile est suivi immédiatement par une crise carabinée de l'Église catholique, dont on peut discuter un peu de la chronologie, mais qui dure au moins 10 ou 15 ans. Et voilà. Donc voilà les trois options. Alors moi, inutile de dire que je ne suis pas du tout arrivé dans mon dossier avec ce schéma en tête. Je suis arrivé par des sources que ce qu'on appelle les matériaux boulards, c'est-à-dire ces enquêtes que l'Église catholique a pratiquées sur elle-même pendant 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, en gros, entre 45 et 65, mais surtout dans les années 50, en gros, 50, début des années 60, où dans tous les diocèses de France, on a méthodiquement compté les pratiquants, on les a cartographiés, on a essayé de voir à quels milieux sociaux appartenaient les fidèles, bref, on a fait un travail très sérieux, très impressionnant, qui a laissé des dizaines, voire des centaines de mètres linéaires d'archives dans tous les diocèses, et qui nous fournissent une photographie du catholicisme des années 45-60 ou 65 extrêmement précise. Moi, je suis parti de là, je suis parti de ces archives, et j'ai constaté, si vous voulez rapidement, je le dis pour pas trop m'attarder, mais en gros, ils ont commencé à compter parce qu'ils étaient très inquiets. Donc il se passait déjà des choses depuis un certain temps. Et notamment, il y avait eu ce best-seller en 1943, La France, pays de mission, point d'interrogation. que la France, qui fournissait encore à la veille de la guerre de 14 les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde, puisse être devenue un pays de mission, ça faisait bizarre. Bon, ils en ont vendu 150 000 exemplaires en 43 sous l'occupation, en pénurie de papier, ça c'est un vrai best-seller. Et du coup, ils se mettent à compter pour savoir où ils en sont exactement. Et puis, au terme de 15 ou 20 ans de comptabilité, ils sont plutôt rassurés, en fait. Ils sont plutôt rassurés en disant, bon, il n'y a jamais eu d'âge d'or, il en reste finalement plus qu'on ne le redoutait au moment où on a commencé à compter, en partie parce qu'il y a une sorte de petit boom religieux dans la France des années 45-60 qu'ils ont enregistré, logiquement, au moment de compter. Et du coup, ce chanoine Boulard et ses, j'ose pas dire ses Claude, mais ses collaborateurs diocésains, au fond, on se retourne vers les évêques, qui sont les commanditaires de toutes ces enquêtes. Au début des années 60, on leur disait, bon, bah, c'est un peu déprimant, parce que ça fait 200 ans qu'on essaie de redresser les courbes, et on n'y arrive pas tellement. Mais c'est quand même rassurant, parce qu'il y a une espèce de plancher qu'on a peu de chance de percer. C'est du plus 3, moins 3, vous voyez, c'est comme... Bon, donc, dormez bien, bonnes gens, il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire, c'est pas... la reprise est difficile, mais... Voilà. Et au moment même où ça se produit, eh bien, il y a un certain effondrement qui se produit. Donc, c'est ça qui m'avait intéressé, c'est que le chanoine Boulard rend ses conclusions, et puis, dans les années 60, parce que ça lui remonte un peu des diocèses, il s'aperçoit que c'était vrai jusqu'à présent, mais que ça ne l'est plus maintenant. C'est-à-dire qu'il est bel et bien en train de se produire une rupture. Ce que j'ai proposé, c'est une rupture de pente. C'est-à-dire qu'il y a une pente, et puis dans la pente, il y a un truc qui se casse. C'est donc fort de ce constat que le chanoine Boulard a fait lui-même dans la seconde moitié des années 60, mais discrètement, parce qu'autant, quand il revenait voir les évêques en leur disant, vous savez, il en reste beaucoup dans vos diocèses, là, on voulait bien l'entendre, mais quand vous arrivez avec des nouvelles catastrophiques, plus personne n'a envie de vous écouter. Et puis, c'était au lendemain du concile, on se disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de compter les gens, après tout, de savoir s'ils sont là à 95%, à 85%, qu'est-ce qu'on en affiche, est-ce que l'évangile a quelque chose à voir avec ces statistiques? Ça paraissait pas évident. Ça ne l'était pas pour un certain nombre de chrétiens dès le départ, mais ça l'était moins que jamais, en quelque sorte, au lendemain du concile. Bref, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on ne l'a pas tellement entendu quand il est venu annoncer ces mauvaises nouvelles. Mais il a fait le travail quand même. Moi, j'ai été dans ses papiers, il a réfléchi au problème. Et donc, quand on regarde un peu ces statistiques, là où elles existent, on constatait effectivement une rupture assez brutale au milieu des années 60 et qui était même probablement antérieure à ces déclencheurs de rupture qu'on avait bien repérés jusqu'à présent, qui étaient mai 68 ou Manévité, chacun ayant un peu son déclencheur favori selon sa tendance idéologique et spirituelle. Disons, les catholiques de droite disaient c'est la faute à mai 68, les catholiques de gauche disaient c'est la faute à Manévité. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ce n'est pas deux événements majeurs. Mais avant les événements en question, il y a probablement eu un autre événement qui coïncide chronologiquement avec le Concile. Et du coup, c'est fort de ce constat que je me suis dit, bon, ben, quel déclencheur? Il faut un déclencheur, puisque quelque chose se casse. À ce moment-là, a pu produire un effet de ce genre, qui a eu des effets très sensibles sur la jeune génération de l'époque, c'est-à-dire en gros, c'est même pas tellement les premières cohortes du baby-boom, c'est ceux qui sont nés à partir de 1950, qui ont eu 15 ans, 65 en gros, qui se mettent à décrocher plus que les autres. Dans les fratries d'ailleurs, on le voit bien, les aînés ont été plus vissés, mais les suivants... Bon. Et là, il y a une génération qui se met à décrocher de façon très, très, très spectaculaire en proportion, mais pas forcément très visible à l'œil nu. Ça, j'ai souvent insisté là-dessus, parce que comme ils sont très nombreux, ces baby-boomers, hein, en 1939, il y avait 600 000 naissances par an, et en 1947, il y en avait 850 000. Le baby-boom, c'est plus de 150 000 bébés tous les ans. Donc ça vous fait des générations extrêmement nombreuses. Donc même s'ils décrochent de 15, 20 ou 30 % en proportion accrochée par le rite, en visuel de nef pour les curés, ça se voit pas forcément. Parce qu'il y a plein de jeunes encore. Voilà. Donc voilà, donc je suis parti de là, je suis arrivé avec ma date, et là, à la fois ça a fait horreur à certains, et ça a fait la joie d'autres, qui ont dit, ah ben vous voyez bien, on vous le disait depuis si longtemps, et voilà que cet universitaire, peut-être de gauche, sait-on jamais, nous amène, voilà. Donc je me suis fait des amis, dans le milieu traditionnel, ce que j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, moi je vais partout où on m'invite, donc, enfin, sauf chez les malfrats ou les criminels, même au passage ingrat. Et j'ai découvert des gens intéressants, pas toujours, mais ceux qui m'ont invité, que j'ai été voir, j'ai souvent découvert des gens intéressants, j'ai fait des connaissances, ça réfléchit, il y a des gens qui réfléchissent, et voilà, donc j'ai découvert un univers, moi, ça m'est bien égal, je vais partout en me tend la main, mais voilà, alors je ne suis pas traditionnaliste pour autant, en ce sens que précisément ce que j'ai essayé de montrer, c'était que il y a à la fois des causalités religieuses et des causalités socioculturelles, et j'ai présenté cet effet concile, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais l'effet concile n'a rien à voir avec le concile lui-même, en un sens, c'est pour moi l'effet majeur, c'est la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. C'est-à-dire, en fait, la généralisation d'une certaine conception du christianisme et de la pratique qui s'était inventée dans l'action catholique, en gros, dans les 30 dernières années. Et le concile a fonctionné comme un moment de généralisation du système. Voilà. Et donc, des tas de gens qu'on avait vissés à l'ancienne, la religion, c'est comme ça, c'est obligatoire, on y va. Ça ne voulait pas dire que, par hypothèse, il n'y avait pas de la mystique et des croyances à l'intérieur, mais voilà, il y avait une culture de la pratique obligatoire qui était très forte, sous peine de péché mortel, sauf excuse canonique. Bon, et puis tout d'un coup, on désinstalle un peu tout ça. À mon avis, c'est ça, surtout sur la jeunesse, qui était de toute façon un groupe plus décrocheur que les autres. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails. Mais... Et donc, c'est comme ça que, que j'en suis arrivé à l'idée que le Concile avait dû jouer concurremment à d'autres événements postérieurs mieux repérés, un rôle de déclencheur de la mutation. Déclencheur, comme en économie, on dit que dans les cycles, il y a des déclencheurs qu'on a tendance, en économie aussi, à prendre pour la cause de la rupture. Ce n'est pas la cause, c'est ça déclenche. Ce qui explique que le même genre de décrochage s'est produit dans l'Angleterre anglicane à peu près au même moment, un peu avant, 63-64, sans concile. Des déclencheurs, on en trouve. Voilà. Mais je crois quand même que compte tenu de ce qu'était le catholicisme français du début des années 60, cet événement majeur qu'est le concile ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions. Des répercussions souhaitables et d'autres imprévues. Et c'en était l'une d'entre elles.
Alors, vous faites donc un deuxième ouvrage à partir de... après celui-là. Ce deuxième ouvrage, au fond, il a un peu la même contexte, la même texture que la fin du premier. La fin du premier, vous analysez un certain nombre de réactions sur la confession, sur les fins dernières, et au fond, dans votre nouvel ouvrage, vous reprenez un certain nombre de points plus précis qui manifestent ce décrochage, qui manifestent cette évolution, hein, la conception de la mort, la conception du spirituel, la conception de l'identité, etc. Toutes questions que vous allez détailler dans un certain nombre de chapitres. Mais avant d'entrer dans le livre, est-ce qu'il y a un changement de vision? Est-ce que cet ouvrage, ce second ouvrage manifeste un déplacement d'analyse? Ou bien c'est simplement parce que vous aviez un ensemble d'articles qui confrontaient, qui appuyaient votre thèse qui a été publiée dans le premier?
Oui, alors c'est pour je dirais volontiers, le précédent c'était vraiment un livre d'histoire. Ça c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'historien qui réfléchit sur le temps présent. Et donc, je propose des analyses de tendances contemporaines que chacun peut constater et analyser avec la grille qui est la sienne ou le point de vue qui est le sien, mais que moi, j'essaie d'analyser en historien, c'est-à-dire comme seul outil de travail, que de comparer ce que j'ai cru comprendre de la situation antérieure et ce que je vois sous les yeux, l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui continue. Donc, c'est une analyse de tendances contemporaines. Mais c'est pas un livre d'histoire parce que le recul me manque. D'abord, j'en sais pas plus que tout un chacun. Je suis dans les tendances. Avec comme cahier des charges de les analyser en temps réel, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué. Nous autres historiens, on arrive toujours après les batailles, donc on est beaucoup plus malin que tout le monde, parce qu'on sait comment les choses se terminent. Quand on est dedans, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là pour un historien que d'être obligé d'essayer de produire une analyse en temps réel. C'est-à-dire de rejoindre la condition humaine normale. Et là, on s'aperçoit de la complexité. Donc, c'est des analyses de tendance contemporaine.
Pour illustrer ce que vous venez de dire, l'historien du temps présent, ce qui est un peu la difficulté de méthode que vous soulignez, vous dites, page 232, « Venu de Paris le matin même pour tâcher de voir plus clair dans l'application de la réforme conciliaire oubliée en vue d'un prochain séminaire universitaire, je prends le récit d'un prêtre qui avait accompagné des mourants en plein cœur. On fait aussi ce métier pour ça. Moi, en tout cas, même si on ne sait pas toujours très bien ensuite que faire de ce genre de témoignage qui troue littéralement la trame de nos récits aseptisés et que nous refoulons dans leur fondation. la chair des hommes nous embarrasse. Et vous dites en début de livre, dans votre introduction, parlant de la méthode, qu'il est effectivement difficile de faire de l'histoire du temps présent quand vous n'avez pas la sécurité de 50 ans derrière qui vous permette de dégager des concepts, de dégager des
Oui, il y a à la fois le problème du recul. 50 ans, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qu'on peut historiciser au bout de 15 jours parce qu'ils sont froids. Et si on a les moyens documentaires de le faire, on peut y aller. Il y en a, même 200 ans après, ils sont encore trop brûlants pour être refroidis. Bon, donc, c'est très variable d'un sujet à l'autre. Mais enfin, globalement, j'aime bien citer cette formule de l'historien Marc Venard, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui disait souvent il faut 50 ans de distance pour nous autres historiens. C'est la durée un peu standard. 50 ans, d'ailleurs, ça vous permet de commencer à écrire l'histoire d'un phénomène au moment où sont encore parmi nous, parmi les contemporains de l'événement, les jeunes devenus vieux. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, j'allais dire au crépuscule, de commencer à écrire l'histoire avec des témoins qui sont encore parmi nous, qui ont souvent écrit dans leur tête eux-mêmes pour leur propre compte cette histoire. Il y a des choses qu'ils savent qui sont absolument irremplaçables, c'est pour ça qu'on les fait parler tant qu'il est temps de le faire. Et puis en même temps, ils ont aussi leur version des événements et on mesure aussi tout ce que l'histoire qui arrive derrière peut déplacer. Donc c'est à la fois un problème, mais c'est en même temps, c'est un peu le sens du petit texte que vous avez lu. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi faire de l'histoire du temps présent, à la différence de mes collègues qui travaillent sur les périodes plus anciennes, la possibilité d'avoir affaire aux témoins. Et
le risque que ça implique de se planter.
Alors d'abord le risque de faire de l'histoire devant témoins, c'est-à-dire devant des gens qui y étaient. C'est très facile d'écrire l'histoire de Périclès, il risque pas de venir vous emmerder. Alors que quand vous écrivez l'histoire devant des gens qui étaient sur place, il y a une difficulté, ou en tout cas c'est à la fois une chance et une difficulté. Et puis ils peuvent se produire toujours des rencontres du type de celle que vous évoquiez, effectivement, où j'avais été en Vendée dans une maison de retraite du clergé que j'ai pratiqué à plusieurs reprises pour faire des enquêtes, où justement je vais voir des vieux prêtres, je leur donne un questionnaire au préalable quand j'ai une enquête sur un sujet particulier, et puis on déjeune ensemble, on passe une après-midi et j'apprends toujours des tas de choses. Ça m'intéresse énormément, mais ça m'intéresse d'autant plus que je prends aussi le risque de rencontrer quelque chose, c'est-à-dire dans ce monde de mort qu'est le monde des historiens. Et précisément, on travaille bien quand ils sont vraiment morts, nous, de rencontrer des vivants. Et ça fait réfléchir parce que ça nous rappelle une chose qu'on ne devrait pas oublier, mais qu'on peut oublier, c'est les limites de notre discipline. Précisément, on travaille sur des spectres et des morts. Et puis quand on tombe sur un vivant, fortiori, là c'était particulièrement émouvant parce que c'était effectivement un récit d'extrême onction très très bouleversant, qui fait partie probablement des événements les plus bouleversants du ministère, des événements potentiellement les plus bouleversants du ministère, et c'était bluffant, il y avait tous ces prêtres qui étaient là, âgés, il y avait une ambiance très fraternelle, moi je trouvais, dans cette maison de retraite. Ils s'écoutaient très attentivement, ils étaient très intéressés par leurs expériences mutuelles de ministère, et puis il a raconté cette extrême onction, c'était bouleversant, voilà, donc ça m'a frappé. Mais après, on ne sait pas qu'en faire. C'est-à-dire qu'on a ça dans un coin de son cerveau, mais comme après, moi, je mets les types en courbe, mais ce n'est pas inutile de s'en souvenir.
D'avoir son projet troué par la vie des gens.
D'être un peu bousculé, ouais, par la vie des gens.
Bon, après cette courte réflexion sur la méthode, venons-en au fond du livre. Vous le commencez par l'analyse de la mort, c'est un peu le même thème que celui sur lequel vous aviez terminé le précédent. Les fins dernières, le ciel, l'enfer, toute cette perception qui a profondément changé depuis le Concile, en fait, qui doit prendre en considération la mort, alors qu'il n'y a plus aucun élément spirituel qui soit fourni par une église, par une croyance, et qui aide à passer cette transition. Comment les baby-boomers vivent-ils cette expérience de penser et de vivre leur mort à venir?
Alors, il faudrait leur demander, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est deux choses. Il y a une chose qui m'intéresse depuis longtemps, sur laquelle je suis souvent revenu et qui me frappait. J'avais commencé ma carrière d'historien là-dessus. C'est-à-dire de me dire, au fond, ce thème des fins dernières, ce qu'on appelait jadis les fins dernières, la mort, le jugement particulier, l'enfer, le paradis, le purgatoire, pour aller vite, qui était assez central dans la prédication du catholicisme ancien, qui lui donnait à la fois un côté dramatique, mais en même temps une dynamique, me paraissait avoir complètement disparu du catholicisme que j'avais, dans lequel j'avais été formé moi-même. Je suis né en 73, donc mon catéchisme, c'est les années 80. On ne m'a absolument pas parlé de ça. Ou alors, on m'en a parlé, ça m'a traversé sans me retenir, ce qui est un peu le lot du catéchisme, généralement, de traverser les enfants sans beaucoup les retenir. Mais quand même. Et je me disais que c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que sur la base d'un catéchisme qui n'a pas changé, pratiquement pas, donc sur la base d'un corpus dogmatique qui est le même, il y a un catéchisme réel, c'est-à-dire un catholicisme réel, c'est-à-dire prêché et vécu, qui a changé de fond en comble, qui a changé radicalement à tel point qu'on pourrait même se demander si c'est le même. Là, vous allez me dire, c'est à nouveau mon tropisme traditionnaliste qui me remonte. Mais il faut reconnaître que ça, c'est leur part de vérité aussi. Quand ils plantent le drapeau là-dessus, en disant, bah, attendez, votre truc, c'est plus le même, c'est plus la même chose, en fait, vous parlez pas de la même chose. Ben, c'est pas faux. C'est-à-dire, l'observateur extérieur qui débarque, après, moi, du coup, j'ai étudié ça au XXe ou au XIXe siècle pour essayer de comprendre à partir de quand, au fond, cette rupture très profonde dans les contenus prêchés et probablement vécus du catholicisme s'était produite. Ça, c'était le premier centre d'intérêt ancien. Et puis le deuxième, il est plus démographique, c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup à la démographie, mais c'est que les baby-boomers dans nos contrées ont un rapport à la mort qui, pour des raisons démographiques, est très spécifique, en ce sens que, me semble-t-il, qu'ils ont comme caractéristique d'abord d'être très nombreux, de ne pas avoir été éliminés à l'ancienne par la mortalité infanto-juvénile qui a quasiment disparu dans les 10 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale pour atteindre les taux presque incompressibles qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc pas de mortalité infanto-juvénile, ou quasiment plus. Pas de guerre, ils n'ont pas fait de guerre, ils sont les derniers, la guerre d'Algérie se termine en 62, donc ils échappent aux guerres, ils échappent aux épidémies démographiquement meurtrières, la grippe espagnole, ils échappent... Bref, c'est des générations un peu extraordinaires parce que pour la première fois dans l'histoire démographique de l'humanité, vous avez la génération quasi au complet à 65 ans. Elle n'a pas été éliminée avant. D'habitude, mais précisément, les sociétés étaient des pyramides démographiques. Le principe de la pyramide, c'est qu'on élimine à chaque étage, à chaque degré de la pyramide. Là, il n'y a plus de pyramide. Nos pyramides des âges deviennent des espèces de losanges déformés par ce que le démographe appelle la rectangularisation de la courbe de survie. C'est-à-dire qu'à 65 ans, vous avez 90% de la génération. Du coup, ça change tout. Parce que vous avez, à mon avis, c'est un événement majeur, en fait. C'est un événement démographique. Le produit d'une évolution de longue durée, mais qui arrive au seuil de mutation culturelle avec cette génération, qui achève en quelque sorte le processus, parce qu'évidemment, si une génération s'élimine à partir de 65 ans, j'allais dire avant 60 ou 65 ans, sauf exception, vous avez une sécurité extraordinaire dans l'existence. Ça change tout, en fait, dans le rapport à l'existence. Vous avez un quasi-sentiment d'immortalité. Et puis ensuite, bah, la génération, faute de s'être éliminée de 0 à 90 progressivement, va partir en bloc de 65 à 90, donc avec un effet de rattrapage, donc potentiel. Donc je suis aussi cette génération pour des raisons démographiques, parce que ce n'est pas simplement dans la culture qu'elle a muté, c'est en partie dans ses structures démographiques elles-mêmes, son rapport à la mort a changé fondamentalement, et me semble-t-il, la religion a quand même quelque chose à voir fondamentalement avec le rapport à la mort et donc avec l'existence. Donc c'est, je dirais, dans ces mutations démographiques, il y a des mutations culturelles et même des mutations spirituelles qui me paraissent très importantes et qu'une génération, une ou deux générations, ont porté plus que d'autres, ont porté électivement. Donc les baby-boomers, les plus âgés d'entre eux ont 75 ans, ils sont arrivés en âge de vieillir et de mourir. Et c'est en ça que je considère que c'est un événement. Parce que c'est pas rien que de mourir dans un tel contexte.
Sans avoir les éléments de spiritualité qui permettent de la situer, cette mort.
Alors, a fortiori, dans un catholicisme, effectivement, qui a un petit peu désinstallé son ancien système des fins dernières, ce qui, à la fois, a probablement été une bonne nouvelle, bien vécue par ceux qui ont vécu la désinstallation, parce qu'on les émancipait, en quelque sorte, des aspects les plus inquiétants du message. Mais c'est un peu ce que disait Philippe Ariès, le grand historien de la mort. Il disait, quand on baisse la marche, théologiquement, c'est pas forcément un cadeau, en ce sens que l'angoisse de la mort qui trouvait à se fixer dans ses peurs théologiques, attention à pas rater la sortie, le jugement, à éviter le purgatoire, à fortiori l'enfer, bon, il y avait une espèce de scénario avec des endroits, des choses à faire, des choses à ne pas faire, scénario théologique en quelque sorte. Si vous désinstallez ça, au fond, l'angoisse de la mort n'a plus d'objet où se fixer, et son angoisse, l'angoisse est redoublée en quelque sorte. Elle est plus diffuse, mais elle est redoublée, et je crois assez à ça, moi. C'est-à-dire que, à la fois, vous êtes libéré à certains égards, et j'allais dire, on vous a aussi libéré de choses probablement auxquelles vous ne croyez plus. C'est aussi pour ça que ça se désinstalle si brutalement. Hein. C'est que si ça se désinstalle brutalement, c'est qu'en fait, ça tenait probablement un peu à l'inertie, au cadre. Puis dès lors qu'on leur a dit non, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, personne n'a trop insisté. Bon. Et c'est spectaculaire pour l'historien de se dire, au fond, comment on a pu, parce que moi, c'était mon point de départ, comment on a pu croire à ça pendant si longtemps. C'est ça l'affaire. Et comment peut-on avoir cessé d'y croire ? Voilà.
Ça, Et comment les populations résistent à cette anomie ? Enfin, je pense un peu à Durkheim. Le fait qu'on supprime une série de normes rend les gens. Enfin, source de suicide ou source d'incertitude dans l'existence.
Et les questions n'ont pas disparu, puisque c'est un autre de mes des choses. Mais alors, j'en ai pas parlé dans ce bouquin, mais quand vous regardez l'ampleur de la littérature sur les fameuses expériences de mort imminente, là, les near-death experiences, qui passionnent beaucoup de nos contemporains, avec ce scénario décrit pour la première fois par ce psychiatre américain dans les années 70 du tunnel, enfin ce scénario qu'on trouve aussi bien dans les tableaux de Jérôme Bosch, mais enfin que ce psychiatre américain a décrit au milieu des années 70. Au début, ça apparaissait comme des élucubrations américaines dont on se demandait si ça finirait par franchir l'Atlantique. Ben, ça a franchi massivement l'Atlantique parce que c'est omniprésent dans la culture contemporaine. Preuve que la question de la mort, de l'au-delà, c'est pas une surprise, mais continue de préoccuper nos contemporains, bien légitimement. Et que l'Église essaye, constatant d'ailleurs un peu ce succès, essaye de monter dans le train en marche. J'ai vu ces derniers temps des évêques parler de ça. Bon, comme si, au fond, il y aurait peut-être moyen là, de ressusciter ce discours moribond sur les fins dernières en embarquant dans le train des NDE et des EMI. Oui. Ça, c'est intéressant aussi de voir ces évolutions.